Radio Okapi.
À Babel Pongo Massimango pour le journal. Bonsoir. Le chef de l'État attendu sur au moins trois volets demain dans son discours sur l'état de la nation. C'est notamment la sécurité avec les opérations en cours contre les groupes armés, sa politique étrangère ainsi que le social avec la gratuité de l'enseignement de base et les inondations dans le pays. Dans l'actualité aussi, cette nouvelle macrabe en Ituri, 9 corps sans vie ont été découverts ce matin à Mutanga sur le littoral du lac Albert. Des sources sur place attribuent ces tueries à la milice Codeco. La gestion du courant électrique à Butembo, nous en parlons avec notre invité James Van Hout, directeur financier de la société ENK-STS qui dessert cette ville. Les habitants se plaignent de son coût élevé et du manque d'éclairage public, des revendications appuyées aussi par la Lucha. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prononce son premier discours sur l'état de la nation demain, vendredi, devant le Parlement réuni en congrès. Il s'agit d'un exercice constitutionnel auquel se conforme le président de la République, selon l'article 77 de la Constitution. À quoi peut-on s'attendre dans ce discours? Tentative de réponse avec vous, Jeff Ngoy.
Le président de la République est attendu sur au moins trois volets. Sur le plan de sa politique étrangère, Félix Tshisekedi a déployé d'intenses activités diplomatiques en interne comme à l'extérieur du pays. D'abord en interne, depuis sa prise de pouvoir, il a réchauffé les relations diplomatiques avec l'Union européenne. Il y a eu reprise des activités du Centre européen des visas, ex-maison Schengen, le retour d'un nouvel ambassadeur de l'Union européenne après l'exclusion de l'ancien à la veille des élections. Ensuite, il a plusieurs fois échangé avec les diplomates pour leur expliquer sa vision de politique étrangère, ses projets d'investissement au pays. Et à l'extérieur, Félix Tshisekedi a effectué de nombreux voyages dans le but, selon ses propos, d'ouvrir le pays au monde en prônant le multilatéralisme et la reprise de la coopération avec les institutions de Bretton Woods, avec les grandes puissances sur l'axe le menant de l'Europe aux États-Unis, en Asie et plus en Afrique. Et partout où il est passé, Tshisekedi a vanté les potentiels dont regorge la RDC et a invité les investisseurs à profiter du bon climat des affaires pour investir au pays selon le principe gagnant-gagnant. Enfin, sur le plan social, on peut noter ses nombreuses visites de réconfort auprès des sinistrés des catastrophes, des accidents, l'application de la gratuité de l'éducation de base, de nombreux chantiers ouverts dans le cadre de ces 100 jours de pouvoir, dont les travaux d'infrastructures en cours. Sur le plan sécuritaire et sanitaire, Tshisekedi a ouvert plusieurs fronts contre les groupes armés dans l'est de la RDC et contre la maladie à virus Ebola. Il sera donc question de faire le bilan de toutes ces actions et des projections pour le pays.
En Ituri, 5 détenus sont morts en l'espace d'un mois à la prison centrale de Bounia. Le responsable de cette maison carcérale lit ce décès au manque de nourriture. Il dit avoir alerté en vain les autorités compétentes pour résoudre ce problème. Jean-Claude Loki nous décrit la situation de cette prison.
Selon le directeur de cette prison, le dernier fonds reçu du gouvernement central pour la prise en charge alimentaire des détenus remonte au 18 juillet 2019. Il affirme que c'est pratiquement depuis 5 mois que ces prisonniers vivent dans des conditions humanitaires difficiles. Major Camille Zondi redoute le pire.
Nous avons un taux élevé de malnutrition pour le moment. Quand quelqu'un mange par exemple 400 grammes et puis par après il mange 150 grammes. Quelqu'un qui est malade et qui ne mange pas bien, ça peut aussi entraîner la mort. Toutes les prisons reçoivent les subventions au niveau du gouvernement central. Si la province devait aussi intervenir en attendant, c'est que les centrales résolvent le problème.
Au courant de cette année, 15 détenus sont déjà décédés de suite de cette condition carcérale déplorable. Le responsable de la prison centrale de Bounia demande au gouvernement ainsi qu'aux personnes au cœur sensible de voler au secours de ces personnes en détresse. Un appel qui a vite trouvé écho auprès du regroupement politique républicain indépendant et allié, RIA, dont les membres ont apporté hier mercredi 2 tonnes et demie de maïs frais, 800 kg de choux paumés, 2 bidons d'huile végétale, des sacs de riz. Rappelons qu'à ce jour, cette prison héberge 1332 détenus au lieu de 220, soit 6 fois plus que sa capacité d'accueil normale. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
L'actualité en Ituri, c'est aussi cette nouvelle macabre. 9 corps sans vie ont été découverts ce matin à Mutanga, un village situé à 20 km de Tchoumia Centre sur le littoral du lac Albert. Des sources sur place indiquent qu'il s'agit des personnes sauvagement abattues la nuit dernière par des hommes armés identifiés aux éléments de Codeco du chef rebelle Justin Gudjolo. Un opérateur économique a été kidnappé par ces miliciens au cours de cette incursion. Nous retrouvons une fois de plus Jean-Claude Lokidile.
C'est vers 1h du matin que ces hommes armés se sont introduits dans ce village sans tirer un seul coup de feu. C'était, selon les habitants, pour ne pas alerter les militaires des FARDC. Lors de cette incursion, ils se sont pris à 9 personnes, parmi lesquelles le chef de ce village. Toutes ont été abattues par balles et à la machette, comme l'explique le communicateur de la chefferie de Bahema Banyuagi, Daniel Mungisa.
Ces derniers, le mode opérando était sans base à ces derniers. Ils sont arrivés sans tirer les coups de balle et ils ont commencé seulement à égorger la population. Et deux personnes touchées par balle et le reste par machette.
Tous les corps, dont ceux de quatre femmes et d'une fillette, ont été retrouvés et inhumés à Nyamamba, un village proche. Un opérateur économique a été pris de force pour transporter les biens pillés par ces miliciens, ajoute les mêmes sources. Jusqu'à cet après-midi, sa famille et ses proches n'avaient toujours pas de ses nouvelles. Une situation qui crée un mouvement de panique dans la région. Certains habitants ont trouvé refuge à Nyamamba. Jules Ngongo, porte-parole de l'armée à Ituri, déplore cette situation qui intervient, selon lui, au moment où le chef de cette milice tend la main au gouvernement pour solliciter sa reddition et celle de ses hommes. Bounia, Jean-Claude Loki, Lille, Radio Okapi.
La ville de Bukavu est endeuillée par la pluie qui a provoqué des éboulements mortels la nuit dernière. On enregistre 9 morts et 6 blessés graves sur 2 avenues, Rosizi 3 et Mukukwe, au quartier Ndendere, commune d'Ibanda. Une dizaine de maisons se sont écroulées et plusieurs centaines d'autres présentent des fissures inquiétantes. Le chef du quartier lance un appel à ceux qui vivent sur les sites impropres à la construction de quitter les lieux sans toutefois préciser à ces familles vers quel endroit elles doivent se diriger. Ici à Kinshasa, les habitants du quartier dénommé Cité Kitoko sur la route du Flambeau dans la commune de Barumbu se plaignent de la vétusté du pont aérien appelé pont rail. Ce pont risque de s'écrouler si rien n'est fait, avec le risque d'occasionner de dégâts matériels et humains, craignent des habitants de ce coin. Paul Matendou et Christian Vongassine, ce reportage.
Selon les habitants de ce quartier, ce pont a été secoué pour la première fois par un véhicule transportant un conteneur il y a 4 mois et demi. Le deuxième choc est intervenu il y a seulement quelques jours, ajoute la même source. L'un des habitants rencontrés sur place déplore le fait.
Cela fait déjà 4 mois et demi que le deuxième véhicule a percuté le pont. C'est un grand danger pour nous, les usagers de cette route, et nous demandons au gouvernement de prendre des mesures de secours pour les situations routières.
Les immondices représentent aussi un autre danger sanitaire pour les habitants du coin, explique l'un d'entre eux.
Pour mettre de l'ordre, cela nécessite pas l'aide du gouvernement. C'est à nous-mêmes, les habitants du coin, de mettre la propreté pour éviter le maladie. Cela n'a rien à voir avec le gouvernement.
La population de cette partie lance un appel aux autorités de sauver des infrastructures routières pour permettre à la population d'améliorer son vécu.
Rendons-nous dans l'ex-Équateur où plus de 370 000 personnes sont victimes d'inondations avec la montée progressive des eaux du fleuve et de l'Ubangui. Le rapport a été publié mercredi par le gouverneur intérimaire à l'issue de la réunion de concertation qu'il a présidée mardi soir avec le comité d'éveil provincial et les partenaires humanitaires. Il affirme que le gouvernement provincial de l'Équateur prévoit la délocalisation de ces sinistrés vers 2 sites en Bandaka et Abikoro au centre, mais aussi un appui en vivres, ustensiles de cuisine et en eau potable. Mais faute de moyens, cependant, l'autorité provinciale lance un appel de fonds équivalent à 10 millions de dollars américains. L'appel de Jean-Guilly Mwamolanda au micro de Paul Richard Malingela.
Au niveau local, nous nous organisons avec nos moyens de bord, avec aussi l'aide de quelques partenaires pour leur venir en aide en arrêt alimentaire. Et aussi, avec des infos que j'ai, on a disponibilisé quelques eaux potables pour venir en aide à cette population. Mais sinon, ça ne suffit pas. Nous lançons un cri d'alarme à notre gouvernement central qu'on nous vienne en aide le plus vite possible.
Quels sont les besoins réels et urgents de ces populations sinistrées?
À la date où je vous parle, l'eau continue à monter. On a essayé de calculer le taux d'accroissement. Ça atteint 2%. Il y a pratiquement 370 000 victimes. Et là, nous comptons la population qui vit dans la terre ferme. La population a besoin de denrées alimentaires. La population a besoin de couverts, de produits de traitement d'eau. Urgemment, ça c'est la première phase où nous nous trouvons. Puisqu'on doit aussi prendre ces gens encore submergés et les déplacer vers une terre ferme. Si le gouvernement central nous venait dans un premier temps, même avec 10 millions de dollars, ça peut nous aider à faire face à ça.
Même situation à Kinshasa où les eaux du fleuve Congo ont débordé et causent de dégâts importants dans certains quartiers comme à Kingabwa, dans la commune de Limete où beaucoup d'habitations sont inondées. C'est un reportage signé Grâce Hamzati.
Ces inondations sont perceptibles depuis la cité du fleuve où les eaux envahissent certaines maisons. Conséquence, les fosses septiques pleines refoulent les matières fécales dans les cuves. Cette situation incommodante oblige plusieurs familles à quitter les lieux. Un peu plus loin, toujours à Kingabwa, dans le quartier dénommé Sans Fil, en passant par Grand Monde, la situation s'aggrave. Ici, des biens sont emportés et d'autres détériorés par les eaux. Les jeunes du quartier mettent des planches servant des ponts de fortune pour faciliter tant soit peu la circulation. Ils utilisent des pirogues pour évacuer les biens et les enfants. Désemparés, ils ne savent à quel sens se vouer.
C'est triste. Les eaux arrivent jusque dans nos maisons et nos biens sont abîmés. Que les autorités nous trouvent une solution, que nous ayons même des mousses pour dormir.
Dans ces désastres, nous retrouvons cette jeune élève âgée de 7 ans tenant ses objets classiques sur la tête en train de vouloir aller à l'école. Mais elle est bloquée car le niveau d'eau lui arrive presque au cou. Ce chemin sur lequel nous passons est totalement inondé. S'il y a du courant, nous avons les risques d'être électrocutés. Cependant, ses habitants disent déplorer le passage mardi dernier du Premier ministre à la cité du fleuve sans visiter leur quartier pour s'imprégner de la situation. Signalons que ce phénomène est aussi observé dans les quartiers Ngwele et de Bonhomme, toujours dans la commune de Limete.
Restons à Kinshasa où la survie de l'avenue Lambomakiadi Ex-Bokassa ne tient plus qu'à un fil après sa réhabilitation. C'est surtout dans sa partie comprise entre les avenues Itaga et Commerce, non loin du marché central dans la commune de Kinshasa. C'est le constat fait par notre reporter Jacques-Yves Moulima.
Nous sommes dans le marché central tout le long de l'avenue Lambomakiadi Ex-Bokassa. Il y a peu, cette route était impraticable. Les vendeuses et vendeurs avaient du mal à écouler leurs produits. Aujourd'hui, tout a changé, dit cette vendeuse.
En ce moment, les véhicules et les gens passent sur Bokassa. Ça nous a facilité, les gens viennent acheter.
Mais seulement voilà, depuis, le constat est plutôt décevant.
Il y a des gens qui n'acceptent pas de vendre à l'intérieur. Ils veulent que vendre sur la chaussée.
Les mauvaises habitudes ne quittent pas les Congolais, regrette ce papa au volant de sa Jeep.
Pour eux, la route n'existe pas. Je trouve que les gens ont gardé leurs mauvaises habitudes de vendre pratiquement sur la chaussée. On passe difficilement. La route est pleine d'immondices et bientôt là, ça va encore boucher, on n'aura plus de route.
D'où cet appel d'une vendeuse, la cinquantaine révolue.
Il ne sera pas bon que cette route s'abîme de nouveau, que ceux qui vendent rendent propre là où ils vendent. Le rendre sale, l'eau va stagner et la route va s'abîmer encore et ce n'est pas bon.
Tout ceci se passe sous l'œil indifférent de Kinbopé.
Actualité internationale.
Les Algériens élisent leur président ce jeudi lors d'un scrutin sous tension marqué par une nouvelle manifestation de masse à Alger et de sérieux troubles en Kabylie. Dans l'après-midi, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre d'Alger pour dénoncer l'élection en cours qui voit comme une manœuvre de survie du régime.
L'invité.
Certains habitants de la ville de Boutembo s'indignent du coût élevé de raccordement du courant électrique fourni par la société ENK-STS à partir de la centrale hydroélectrique de Ivoire. Nous en parlons avec James Van Hout, directeur financier de cette entreprise. Il répond aux questions de Florida Cambo.
James Van Hout, bonjour.
Bonjour.
Des indignations par rapport aux services rendus par votre entreprise. La dernière à date, c'est celle de la Lucha, d'ailleurs qui a manifesté jusqu'à votre bureau. Quand vous écoutez toutes ces lamentations, quel sentiment vous avez?
Comme je l'ai dit aux gens de la Lucha, ça me fait mal au cœur parce que je pense que ces revendications sont complètement infondées. Nous travaillons bien, nous respectons des normes internationales. Nos cabines sont de standard international. Notre production est de standard international et nous ne nous pouvons pas nous permettre de fournir un service qui est de mauvaise qualité. Et je vous invite, vous, en tant que journaliste, à aller vérifier mes propos. Et vous verrez par vous-même que finalement, ce que je dis est la vérité et que ces accusations sont complètement infondées.
Et raccordement de $300, un autre de $500, pourquoi cette différence?
Alors là, il s'agit de puissance installée dans le compteur, en fait. Et donc, le pack qui est à $300, en fait, est un pack de raccordement de base, avec des puissances qui sont limitées dans le compteur à 0,8 kVA. Nous le faisons évidemment pour pouvoir aider les revenus modestes à pouvoir se raccorder, mais la société bien évidemment ne gagne rien là-dessus.
Par rapport à ces raccordements, c'est de $300, paye les frais de maintenance suivi compteur, $4 le mois, c'est de $500. La population, on parle des 12, voilà, vous parlez des $8. À quoi servent ces frais?
Alors, ces frais servent à plusieurs choses. Donc en fait, c'est tout d'abord une assurance qui assure le client que sa connexion sera toujours effective, c'est-à-dire s'il y a un problème sur le compteur, s'il y a un problème sur l'interface, un problème de connexion avec les câbles, disons n'importe quel problème qui pourrait survenir entre le compteur et le tableau de la maison, nous prenons en charge toutes ces réparations, qu'elles adviennent pour quelque raison que ce soit. Nous allons prendre en charge les réparations et faire en sorte que le client soit toujours connecté. Donc c'est une assurance. Deuxièmement, ça nous permet de venir prendre les index chez les clients. Une fois par mois, nous devons aller chez les clients, prendre les index, vérifier les puissances, et tout ça, ça nous permet de tout simplement bien calibrer le réseau. Dernière raison, ça nous permet aussi de faire des contrôles antifraude pour éviter qu'il y ait des problèmes justement de tension sur les lignes, parce qu'évidemment, nous savons quelle puissance est installée sur quel câble, et le fait qu'il y ait des fraudeurs va justement perturber le réseau, parce que nous n'avons pas prévu cette puissance installée sur ces câbles. Donc toutes ces raisons font que évidemment ça génère des dépenses sur la société, et nous devons bien évidemment recouvrir ces charges par les frais de maintenance et suivi compteur.
Si un abonné se déplace sans caisse ou courant soit consommé dans la maison, il part un mois, deux mois, cinq mois, est-ce qu'il va toujours payer ses frais de maintenance suivi compteur?
Alors effectivement, et c'est pour ça qu'aussi on dit à nos clients que ça soit pour les frais de maintenance et suivi compteur ou bien pour le paiement de la dette, parce que nous permettons aux clients de payer leur raccordement sur 12 mois. En fait, on leur recommande de venir faire une recharge même de 1$ par mois pour pouvoir évidemment payer ses frais. Parce que le problème est que si le client part pendant 5 mois, il aura par exemple 5 mensualités de remboursement de dette à payer et aussi 5 fois les frais de maintenance et suivi compteur. Donc ce sont des frais qui peuvent se cumuler.
Population, parce que la société devrait aussi peut-être s'occuper de l'éclairage public.
Ça s'appelle d'ailleurs éclairage public, ce qui veut dire que c'est un service public, et en fait partout dans le monde, ce service public est à la charge de la ville, c'est-à-dire à la charge de la mairie. Donc maintenant, nous devons nous mettre ensemble avec les gens de la société civile ainsi que les autorités de la mairie pour qu'on puisse trouver un mécanisme permettant le financement de cet éclairage public.
Certains pensent que c'est encore temps de transporter les courants vers Béni vu que la ville de Boutembo n'est pas encore suffisamment couverte.
Alors, évidemment, il y a encore des choses à améliorer ici à Boutembo et à agrandir le réseau. Maintenant, il faut aussi penser aux gens de Béni. On ne peut pas les laisser dans le noir. Boutembo, ça fait déjà un an et demi qu'il y a le courant. À Béni, il n'y a rien. À Béni, la situation est très compliquée, je suppose que vous le savez. Et nous, notre décision stratégique a été d'envoyer le courant sur Béni tout en faisant les extensions sur Boutembo, parce que nous avons déjà ajouté 3 cabines au réseau qui étaient préexistants au lancement de la centrale. Nous en avons ajouté 4 à Béni, mais nous pouvons pas privilégier Boutembo à 100% et laisser Béni dans le noir, tout ça parce que les gens veulent que d'abord Boutembo soit éclairé. La société ENK a des concessions pour Boutembo et Béni, et nous devons d'être impartial entre les deux villes.
Monsieur James Vanout, Radio Capu, vous remercie.
Merci à vous.
Merci également à vous qui avez suivi ce journal.